France Culture, il est midi et demi. Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Quota d'immigrés pour certains emplois, délai de carence pour les demandeurs d'asile avant d'accéder à la sécu de base. Édouard Philippe détaille depuis ce matin ses mesures sur l'immigration déjà largement dévoilées et non moins controversées. De son côté, le chef de l'État assume « j'ai fixé un cap et le gouvernement l'applique », a déclaré ce matin Emmanuel Macron.
Les médecins généralistes français qui reçoivent des cadeaux des laboratoires pharmaceutiques ont tendance à faire des prescriptions plus chères et de moindre qualité.
Oui, voilà ce qui ressort d'une étude de chercheurs publiée ce matin. L'Observatoire international des prisons tire la sonnette d'alarme. Il a perdu 66% de ses subventions publiques ces 5 dernières années. Invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, la directrice de l'OIP, Cécile Marcel.
L'Arabie Saoudite est en contact avec les rebelles houthis pour mettre fin à la guerre au Yémen.
C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui un haut responsable saoudien au lendemain de la signature à Riyad d'un accord de partage du pouvoir entre le gouvernement yéménite d'un côté et puis les séparatistes sudistes de l'autre. Enfin, un an quasiment jour pour jour avant la prochaine présidentielle américaine, les résultats des élections partielles organisées hier dans 4 États doivent-ils être interprétés comme des indicateurs du scrutin de 2020 lors duquel Trump briguera une réélection. Toujours est-il que le camp républicain a enregistré cette semaine plusieurs défaites embarrassantes. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Après la crise des Gilets jaunes, l'exécutif avait tenté de renouer le dialogue à travers un grand débat national. Ils réfléchissent dans un ouvrage qui paraît aujourd'hui à la manière de refaire démocratie. Le philosophe Jean-Luc Nancy est notre invité avec le journaliste Jean-François Boutor pour Démocratie, Hic et Nunc.
Merci et à tout à l'heure. 4 semaines après le premier débat annuel au Parlement sur la question, voici donc le sujet sensible de l'immigration à nouveau sur la table aujourd'hui à l'occasion d'un conseil interministériel. Depuis ce matin, Édouard Philippe égrène au total une vingtaine de mesures controversées, mesures déjà exposées en réalité lundi soir, une partie de la majorité présidentielle et qui ont largement fuité hier. En particulier, l'instauration d'un délai de carence de 3 mois pour l'accès des migrants, demandeurs d'asile ou non, à l'aide médicale d'État, mais aussi la mise en place d'objectifs chiffrés en matière d'immigrés professionnels. Selon la terminologie officielle, comprenait l'instauration d'une migration économique choisie, comme l'avait fait d'ailleurs un certain Nicolas Sarkozy. Ou comment prolonger donc une longue séquence ponctuée depuis un mois déjà par des mots valises, voile, communautarisme et désormais quota comme autant de signaux envoyés à l'opinion à 6 mois des prochaines municipales. Mais plus encore, si le calendrier de ces annonces ne doit probablement rien au hasard, la nature même de ces annonces interroge, à force de se présenter comme l'ultime rempart contre l'extrême droite, tout en investissant son terrain de prédilection, Emmanuel Macron, lequel s'érige en briseur de tabous, ne touche-t-il pas là aux limites de son fameux en même temps? Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Matignon. Alors, on connaissait déjà, Anne, certaines des mesures annoncées ce matin par le Premier ministre. Qu'en est-il des autres?
Alors, avant de vous répondre, Thomas, sur ces mesures qui continuent d'être égrenées ici à l'hôtel Matignon, je vous propose d'écouter le Premier ministre qui a voulu donner l'esprit de ce plan interministériel.
Le sens général de notre action, c'est celui de la souveraineté. Nous voulons reprendre le contrôle de notre politique migratoire. Reprendre le contrôle, c'est exprimer et assumer des choix clairs en matière d'accueil et d'intégration. C'est faire en sorte que la délivrance des titres de séjour relève davantage de nos principes ou des objectifs que nous fixons plutôt que d'un constat passif, comme cela a été trop longtemps le cas. Reprendre le contrôle, c'est faire en sorte que lorsque nous disons oui, ce soit vraiment oui, et que lorsque nous disons non, ce soit vraiment non. Je crois profondément, sur ce sujet, comme d'ailleurs sur beaucoup d'autres, à l'idée d'un juste équilibre entre les droits et les devoirs.
Puis il a laissé 4 de ses ministres détailler les mesures. On connaissait déjà l'essentiel, vous l'avez dit. Amélie de Montchalin, la secrétaire d'État aux Affaires européennes, a promis également une augmentation de l'aide publique au développement, avec pour objectif qu'elle atteigne 0,55% du PIB en 2022. Et puis Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a dit que le gouvernement comptait supprimer le cumul entre l'allocation pour demandeurs d'asile, l'ADA, et le RSA, l'ADA, qui sera versé sous forme de carte de paiement. Il souhaite aussi relever le niveau de langue langue française pour obtenir la nationalité française. Christophe Castaner qui a promis aussi, qui a pris l'engagement même d'ici la fin de l'année d'évacuer les campements du nord-est parisien. Et puis Agnès Buzyn a confirmé donc le délai de carence pour les demandeurs d'asile au niveau de la PUMa, la protection universelle maladie, mais les mineurs ne seront pas concernés. Quant à Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, elle a confirmé les quotas par filière professionnelle avec des objectifs chiffrés qui seront revus tous les ans par le Parlement.
Merci Anne Fauquemberg en direct de Matignon ainsi qu'à Laurent Lucas pour les moyens techniques. Le Front National devenu Rassemblement National et son entourage ont-ils financé leurs campagnes électorales entre 2012 et 2015 grâce à des escroqueries au préjudice de l'État? C'est pour répondre à cette question que plusieurs protagonistes, dont deux cadres du parti d'extrême droite, comparaissent à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. L'affaire se concentre en particulier sur des kits de campagne standardisés, tracts, affiches et sites internet. Si pour la défense, ce mécanisme original mais légal servait à pallier les difficultés récurrentes de financement du parti, pour les juges d'instruction en revanche, ce système cachait des prestations très largement surévaluées destinées à abuser l'État, lequel rembourse les dépenses de campagne des candidats dépassant 5% des voix. Et puis je précise que dans un second volet, le tribunal correctionnel examinera également des montages douteux mis en place cette fois-ci à l'époque des municipales et des européennes de 2014 ainsi que des départementales de 2015. Le président du MoDem, François Bayrou, allié d'Emmanuel Macron, a lui été convoqué par les juges le mois prochain aux fins de mise en examen dans le dossier des emplois présumés fictifs du mouvement démocrate au Parlement européen. Le maire centriste de Pau a confirmé sa convocation et dénoncé dans le même temps de nouveau les accusations, des accusations infondées. Rappelons que cette affaire avait précipité sa démission, c'était en juin 2017, de ses fonctions de ministre de la Justice, de même que celle de Marielle de Sarnez aux affaires européennes et de Sylvie Goulard aux armées. Ils étaient deux candidats à se retrouver ce matin au second tour d'un scrutin interne pour prendre la succession de Christian Jacob à la tête du groupe de droite Les Républicains à l'Assemblée nationale. Et c'est finalement Damien Abad qui est arrivé donc en tête devant Olivier Marleix. Plus un médecin généraliste reçoit de cadeaux des laboratoires pharmaceutiques et plus ces ordonnances s'avèrent non seulement coûteuses mais aussi de moindre qualité. Voilà ce qui ressort de la première enquête publiée ce matin portant sur ces liens en France, donc, entre d'un côté les cadeaux faits par l'industrie pharmaceutique aux médecins et puis de l'autre, le comportement de ces derniers. Une équipe de chercheurs a travaillé sur les données concernant au total 41 257 généralistes très précisément et ainsi analysé la façon dont les laboratoires pouvaient influencer leurs prescriptions. Les précisions de Tarach Legal.
L'industrie pharmaceutique a dépensé 14 millions d'euros en 2016 pour les généralistes, plus de 250 millions pour les autres, spécialistes, hospitaliers, sociétés savantes, etc. Sans compter presque 700 millions investis dans ce qu'on nomme des liens d'intérêt, ces rémunérations directes ou conventions entre certaines firmes pharmaceutiques et certains praticiens pour que, par exemple, ils interviennent dans les médias. Quel est l'impact de ce milliard d'euros dépensé par l'industrie pharma? On peut désormais travailler sur la question statistiquement, car depuis l'été 2017, il est obligatoire de déclarer ces sommes dans une base baptisée Transparence Santé. Base qui a permis aux chercheurs de Rennes de mener leur étude. Bruno Goupil, qui est lui-même généraliste à Lorient et qui tient à préciser qu'il n'a aucun lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, a fait sa thèse sur le sujet. Il a croisé ces données avec les prescriptions médicales des généralistes en France. Lui et ses six collègues du CHU, de l'Université de Rennes et de l'INSERM ont découvert que les médecins qui ne reçoivent aucun cadeau sont plus vertueux, si j'ose dire. Ils prescrivent plus d'antibiotiques génériques, plus de statines génériques. Ils prescrivent moins de médicaments contestables, comme les vasodilatateurs ou les benzodiazépines, une forme d'anxiolytique dont les autorités sanitaires veulent réduire la consommation. Les chercheurs ont aussi montré que ces médecins prescrivent des ordonnances qui coûtent moins cher à la sécurité sociale.
Selon une enquête du SNES-FSU réalisée auprès de ses adhérents et révélée aujourd'hui, 93% des enseignants interrogés estiment que leur charge de travail s'est intensifiée. Par ailleurs, 73% des personnels d'éducation estiment que leur travail a dégradé leur santé ces derniers mois. Pour 14% d'entre eux, cela a même conduit à un arrêt de travail. Enfin, plus des trois quarts ont le sentiment d'une perte de sens de leur métier. À l'heure où le nombre de détenus ne cesse d'augmenter en France, au point d'avoir atteint d'ores et déjà un record cette année, alors même que les prisons sont aujourd'hui surchargées, rendant les conditions de détention encore plus compliquées, voilà qu'on apprend que l'Observatoire international des prisons se voit, lui, de plus en plus abandonné par les pouvoirs publics. Tout récemment, plusieurs subventions lui ont en effet encore été retirées. En 5 ans, on estime que l'OIP a perdu pas moins de 66% de ses subventions publiques. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Cécile Marcel, directrice de l'OIP. Bonjour madame.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Florence Thion. Bonjour Florence.
Bonjour.
Première question, madame Marcel, pouvez-vous nous dire tout d'abord à combien se monte donc ce désengagement financier de l'État? Et par ailleurs, vous sentez-vous aujourd'hui menacé?
Alors, si on compare les chiffres de 2014 et ceux de l'année 2019, c'est 282 000 euros en moins de subventions publiques sur une année pour l'OIP. Et pour répondre à votre question, oui, aujourd'hui, notre existence est menacée. Nous ne savons pas comment nous allons pouvoir continuer à mener nos actions en 2020. Nous ne savons même pas comment nous allons pouvoir payer les salaires de notre petite équipe sur la fin de l'année 2019.
Oui, en fait, si rien n'est fait, vous terminez l'année, je crois, sur un déficit de 140 000 euros pour un budget de 750 000, ce qui donne un sens, une proportion. Désengagement des régions, mais aussi de partenaires institutionnels de longue date. Quelles sont les explications que l'on vous a fournies pour expliquer ces baisses de subventions?
Alors déjà, il faut savoir qu'on ne nous fournit pas toujours d'explications, hein, que souvent même on apprend la coupe en relançant les partenaires financiers. Ce qu'on nous dit quand même quand on demande des explications, le plus souvent, c'est que ce qu'on fait est formidable, mais qu'on est dans le trou de la raquette. Donc on rentre plus dans les critères de financement des pouvoirs publics. Alors c'est vrai qu'il y a des coupes budgétaires des pouvoirs publics, mais selon nous, il y a aussi la volonté politique de ne pas nous faire rentrer dans le trou de la raquette, ou en tout cas de ne pas nous faire rentrer dans les critères d'attribution de ces subventions.
Pas d'explication politique, pensez-vous, quand on voit un peu la physionomie politique des régions qui se sont désengagées? Est-ce que vous ne pensez pas que vous payez d'une certaine manière les critiques que vous avez pu formuler au fil du temps?
Alors, ce qui concerne le désengagement des régions, c'est clair, hein, c'est à partir des élections de 2015 où la plupart des régions ont basculé à droite que nos subventions ont été supprimées. Et les deux seules régions qui continuent à nous soutenir sont les régions qui sont restées à gauche. Donc là, il y a clairement un enjeu politique qui se joue. Est-ce qu'on paye le prix de nos critiques? Je sais pas, j'ose espérer qu'il n'y a pas la volonté politique de nous étouffer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas la volonté politique de nous soutenir. Et c'est un signal qu'on donne à la fois au débat démocratique, mais aussi à la considération qu'on porte à la situation des prisons aujourd'hui en France.
Oui, parce que vous parlez de débat démocratique. Je reviens sur ces rapports d'enquête qui sont parfois très critiques, comme l'insalubrité des prisons. On a noté celle des Baumettes à Marseille, qui a donné lieu d'ailleurs à une condamnation par le Conseil d'État, une décision du Conseil d'État, pour que les choses changent. Ou plus récemment, ce rapport sur les violences commises par les agents pénitentiaires sur les détenus. Faut-il que vous continuez à être ce contre-pouvoir d'une certaine manière? Et où est-ce qu'il est en danger, effectivement, précisément?
Alors, il est en danger, c'est pour ça que nous sonnons aujourd'hui nous tirons aujourd'hui la sonnette d'alarme, mais évidemment qu'il est extrêmement important que ce contre-pouvoir continue à exister. Il est extrêmement important pour la société en général et pour la démocratie qu'il puisse y avoir un véritable débat sur ce qu'on fait des prisons aujourd'hui, quel rôle on donne aux prisons, quel sort on réserve aux 72 000 personnes qui sont enfermées aujourd'hui au nom de la justice, faut-il le rappeler, et aux centaines de milliers de personnes qui accompagnent ces personnes détenues, que ce soit leurs proches, mais aussi leurs avocats, les intervenants en prison, etc.
Parce que dans le document que vous avez rédigé pour accompagner ce cri d'alarme, vous parlez aujourd'hui d'un cocktail explosif concernant la situation des prisons en France.
Oui, vous l'avez dit en introduction, on a battu des records de détention en 2019 avec près de 72 000 détenus, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de la France. 72 000 détenus, ça veut dire des personnes qui restent enfermées de 22 heures par jour à 2, 3 dans des cellules, en particulier dans les maisons d'arrêt qui sont les plus touchées par la surpopulation. Ça veut dire aussi, en-delà des conditions matérielles particulièrement dégradées, une perte de sens. C'est des gens qui ne vivent que dans l'oisiveté, qui ont des problèmes d'accès aux droits, mais aussi d'accès à la santé, d'accès à des services sociaux, qui ne peuvent pas préparer leur réinsertion. Et donc, forcément, la question que l'on pose, nous, l'OIP, c'est pour ça que je parle d'importance du débat démocratique, c'est quel sens on donne derrière tout ça, quel sens on donne derrière la peine de prison aujourd'hui.
Quelles sont précisément, s'il y en a déjà, des actions que vous menez, des missions qui peuvent être menacées ou qui le sont déjà, compte tenu de cette baisse de subvention?
Alors, il y a l'ensemble des actions que l'on mène, parce qu'on est une petite équipe. Donc, j'ai parlé de ce travail d'information et de participation au débat démocratique. Mais il y a aussi, concrètement, notre présence auprès des personnes détenues et des proches de détenus au quotidien. Aujourd'hui, les personnes qui sont confrontées à une incarcération, elles ont peu de gens vers lesquels elles peuvent se tourner et elles ne connaissent pas le monde et les règles auxquelles elles sont confrontées. Je pense aux personnes détenues, mais aussi à leurs proches. Et donc, on est, nous, au quotidien, sollicités par ces personnes pour savoir comment je fais pour avoir accès à un travail, comment je fais pour avoir accès aux soins, comment je prépare ma réinsertion. Nous, on répond à leurs sollicitations, on les oriente et quand leurs droits ne sont pas respectés, on les aide à faire valoir leurs droits et ça, c'est extrêmement important.
Et ça, vous n'y arrivez plus.
Cette mission-là, elle est évidemment menacée. Et puis, tout le travail derrière d'accompagnement juridique, de recours quand les droits sont bafoués et menacés également.
Alors, sachant que vous refusez d'être subventionné par le ministère de la Justice, n'y a-t-il pas pour vous des sources de financement alternatives que vous pourriez trouver ?
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, même les sources de financement alternatives sont menacées par les politiques gouvernementales. Je pense en particulier à la réforme de l'ISF, de l'impôt sur la fortune. On le sait peu, mais cette réforme a un impact extrêmement important sur le monde associatif. Pourquoi ? Parce que les personnes qui étaient jusque-là assujetties à l'ISF, défiscalisées de manière importante, en faisant des dons à des fondations ou à des fonds de dotation. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de défiscaliser. De conséquence, les fonds de dotation et les fondations ont perdu plus de 50% de leurs revenus. Et c'est vers ces fondations que nos associations se tournent pour obtenir des financements complémentaires quand le gouvernement se désengage. Et aujourd'hui, ils nous disent « désolé, on n'a plus d'argent ».
Alors finalement, votre situation, c'est aussi la situation de beaucoup d'autres associations en France.
Bien sûr, c'est,
mots, s'il vous plaît.
L'ensemble du paysage associatif qui est menacé. Notre situation est particulière parce que nous avons une cause qui n'est pas très vendeuse, comme vous l'imaginez, et c'est particulièrement difficile d'aller trouver de l'argent privé et des dons de particuliers pour défendre la cause des personnes détenues en France aujourd'hui.
Merci Cécile Marcel, directrice, je le rappelle, de l'OIP, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Florence Turm. Le Yémen va-t-il enfin sortir de cette guerre qui a fait plus de 230 000 morts et 3 millions de déplacés ? Ce matin, les autorités saoudiennes ont officiellement reconnu mener des pourparlers avec les rebelles aussi soutenus par l'Iran. Or, hier déjà, un accord de partage du pouvoir dans le sud du pays, l'autre front dans cette guerre, était signé à Riyad avec les séparatistes qui contrôlent Aden. Autant de signes, Valérie Creva, qui semblent aller dans le sens d'une solution négociée.
Fin septembre, les Houthis avaient créé la surprise en annonçant qu'ils étaient prêts à faire la paix avec l'Arabie Saoudite et à mettre fin à leurs attaques en territoire saoudien. Une proposition de trêve qui avait reçu un accueil prudent de la part de Riyad. Aujourd'hui, les autorités saoudiennes semblent plus ouvertes et reconnaissent avoir engagé des discussions avec les rebelles soutenus militairement par l'Iran. Ces derniers ont mené, au cours des derniers mois, une série d'attaques de missiles et de drones contre des villes saoudiennes. La plus importante a visé deux installations pétrolières dans l'est du pays à la mi-septembre, attaque qui a entraîné la chute de moitié de la production saoudienne. En s'engageant dans cette guerre en 2015, l'Arabie saoudite avait tablé sur une défaite rapide des rebelles houthistes. 5 ans plus tard, le conflit s'est enlisé. Les Houthis contrôlent toujours la capitale Sanaa et des pans entiers du territoire dans le nord. Pour le jeune prince héritier MBS, qui a été l'un des artisans de l'intervention au Yémen, il est devenu urgent de trouver une sortie de crise. Cette guerre a non seulement terni son image, mais elle coûte cher au royaume saoudien. La pétromonarchie a en effet considérablement augmenté ses dépenses militaires depuis le déclenchement de son offensive.
Téhéran doit franchir aujourd'hui une nouvelle étape, la quatrième de son désengagement progressif de l'accord de Vienne en produisant de l'uranium enrichi à 5%. L'Iran qui assure toutefois que ces mesures sont encore réversibles, en clair qu'elle reste prête à respecter pleinement ses engagements dès lors que les sanctions dirigées contre elle seront allégées. De son côté et depuis la Chine où il effectue une visite officielle, Emmanuel Macron a qualifié de graves les décisions prises par l'Iran. Par ailleurs, et toujours à l'issue de cette visite d'État, donc je précise que la présidence chinoise a, elle, annoncé avoir conclu avec la France des contrats pour un montant total de 15 milliards de dollars. Plusieurs candidats républicains ont essuyé hier d'embarrassantes défaites pour Donald Trump, qui s'était personnellement impliqué dans ses campagnes électorales locales en appelant à barrer la route, je cite, aux démocrates radicaux. Le locataire de la Maison-Blanche avait d'ailleurs eu ces mots prémonitoires lundi soir en appelant ses supporters dans l'État conservateur du Kentucky à aller voter parce que si on perd, cela envoie un très mauvais message. Vous ne pouvez pas laisser cela m'arriver, avait-il lancé à la foule. Eh bien, 24 heures plus tard, c'est finalement le candidat démocrate qui a arraché la victoire au gouverneur sortant républicain. Et puis en parallèle, les démocrates ont également, et pour la première fois en quelques 25 ans, repris le contrôle de deux chambres de l'Assemblée de Virginie. Alors comment expliquer ces défaites ? Éléments de réponse avec Nadine Epstein.
En Virginie, comme dans le Kentucky, ce sont les questions comme les armes à feu, l'avortement, l'immigration, l'éducation qui ont marqué la campagne de ces élections partielles. Même si on ne peut pas exclure que la menace d'une procédure de destitution de Donald Trump à cause de l'affaire ukrainienne n'est pas elle aussi jouée. En Virginie, état voisin de Washington, les démocrates qui détenaient déjà le poste de gouverneur ont pris aux républicains la majorité des deux chambres de la législature, Sénat et Assemblée, du jamais vu depuis un quart de siècle. Dans le Kentucky, le gouverneur républicain Matt Bevin a été évincé par le démocrate Andy Beshear. Ce fils d'un ancien gouverneur a devancé de quelques points le représentant du grand Old Party. D'ailleurs, le gouverneur sortant a dénoncé hier des irrégularités sans plus de détails et il a refusé de reconnaître sa défaite. En 2015, il avait été élu gouverneur avec plus de 10 points d'écart sur son concurrent démocrate et à la présidentielle de 2016, dans cet état, Donald Trump avait dépassé Hillary Clinton de 30 points. La presse américaine qualifie de revers pour Trump cette défaite républicaine, tout en expliquant que Bevin a été rejeté en raison de ses prises de position sur des sujets comme l'éducation et la santé qui l'ont rendu de plus en plus impopulaire. Il a notamment suggéré aux enseignants du secteur public de faire leur grève pendant les vacances scolaires et non pendant l'année de cours.
Alors, à un an de la présidentielle dans un pays très divisé, ces scrutins étaient évidemment attendus comme un test révélateur de la popularité de Donald Trump, dont on rappellera qu'il est le 4e président seulement de l'histoire américaine, menacé aujourd'hui par une procédure de destitution. Or, hier, un nouveau témoignage explosif est venu renforcer les soupçons des démocrates à l'égard de Donald Trump dans l'affaire ukrainienne. Dans une déposition écrite, l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne est revenu sur son témoignage initial devant le Congrès en admettant avoir bien conditionné une aide militaire américaine destinée à l'Ukraine. Au Royaume-Uni, Boris Johnson se retrouve, lui, sous pression de la Chambre des Lords et de l'opposition, lesquels demandent la publication avant les prochaines élections anticipées d'un rapport sur les ingérences russes dans la politique britannique. Ce dossier de 50 pages devait être rendu public en fin de semaine dernière. Or, sa non-publication fait naître à présent le soupçon sur le gouvernement et ses motivations. Toujours est-il que c'est dans ce contexte donc que Boris Johnson doit dissoudre aujourd'hui le Parlement et annoncer officiellement la tenue des élections anticipées pour lesquelles toutes les enquêtes d'opinion créditent les conservateurs d'une avance confortable sur les travaillistes, même si les sondeurs préviennent que l'opinion est actuellement et inhabituellement volatile. En Espagne, alors que les manifestations se multiplient en Catalogne, où les séparatistes pourraient bien se poser en arbitre des élections générales de dimanche, les socialistes sont toujours donnés en tête, même s'ils sont en baisse. En revanche, le parti d'extrême droite Vox, inexistant il y a encore un an, pourrait devenir la troisième force politique du pays. Direction à présent la Belgique, pays sans gouvernement de plein exercice depuis décembre 2018. Hier, l'une des grandes figures de la gauche, le socialiste Paul Magnette, a été chargé par le roi Philippe d'explorer les possibilités de formation d'une nouvelle coalition. Le président du Parti socialiste devrait a priori s'orienter vers la formation d'une coalition arc-en-ciel, comprenez, rassemblant les socialistes, mais aussi les libéraux, les écologistes, auxquels pourraient venir se joindre les chrétiens démocrates flamands. Angélique Boin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Alors, cette décision de confier à Paul Magnette le soin donc de dessiner les contours d'une nouvelle coalition a aussitôt été interprétée, Angélique, comme une volonté du Palais Royal d'envisager une équipe gouvernementale davantage ancrée à gauche, c'est-à-dire sans les nationalistes flamands.
Oui, car cette décision, elle acte en fait le fossé qui sépare ces nationalistes de la NVA, premier parti en Flandre, des socialistes, premier parti en Wallonie. Deux familles politiques qui ont malgré tout tenté ces dernières semaines de construire une coalition, mais dont les porte-paroles ont finalement jeté l'éponge. C'était avant-hier, tant leurs priorités politiques divergent. Les nationalistes flamands revendiquent une approche socio-économique de centre-droit et veulent décider seuls de ce qui doit être fait avec leur argent, a expliqué l'un des leurs hier. Ils demandent demande des scissions de pans entiers de notre sécurité sociale, a dénoncé de son côté Paul Magnette, sur lequel le roi a donc décidé de miser. Paul Magnette, c'est le bourgmestre, le maire de Charleroi, un francophone qui s'était fait connaître sur la scène internationale en 2016 comme l'un des opposants au CETA, le traité de libre-échange conclu entre l'Union européenne et le Canada. Alors il va sans doute explorer, vous l'avez dit, cette piste d'une coalition arc-en-ciel avec les écolos qui avaient fait, on le rappelle, une percée aux dernières élections, mais aussi les libéraux et les chrétiens-démocrates flamands. Mais ça s'annonce pas très facile, hein, car ces derniers siègent avec les nationalistes flamands au niveau du Parlement régional et ils ne sont pas chauds pour s'en désolidariser, au niveau national, selon le politologue Vincent Laborderie. Le roi n'a accordé que 13 jours à Paul Magnette pour réussir sa mission. C'est très court. En attendant, c'est toujours un gouvernement privé de majorité qui gère en effet les affaires courantes du pays, et cela depuis presque un an. Mais les Belges ont l'habitude en quelque sorte, hein, puisqu'en 2010, l'impasse politique avait duré 541 jours.
Merci Angélique Bouin en direct de Bruxelles. Le procès fleuve du parti néo-nazi grec Obdoré, entamé en avril 2015, touche à sa fin avec la comparution très attendue aujourd'hui de son dirigeant et fondateur. Le procès devrait s'achever début 2020. On termine avec un mot du temps pour aujourd'hui, à l'exception des régions proches de la Méditerranée où le soleil fera de la résistance partout ailleurs. Les nuages resteront prédominants avec de la pluie. Quant aux températures, elles afficheront entre 8 et 19 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.